VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Bion, bonjour à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 11 novembre 2020. Bienvenue. Le financier présumé du génocide au Rwanda, Félicien Kabuga, va comparaître aujourd'hui pour la première fois devant le mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux, MTPI, 2 semaines après son transfert à La Haye, depuis la France. L'objectif, selon le procureur, est de déterminer si son état de santé est compatible avec un transfert et une détention en Tanzanie. Accusé notamment de génocide, Félicien Kabuga a été arrêté en mai près de Paris après 25 ans de cavale. L'Union africaine a réclamé mardi la fin des hostilités dans la région éthiopienne dissidente du Tigré, où les combats poussent des milliers d'habitants à fuir vers le Soudan. Le chef de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a dit mardi suivre avec inquiétude l'escalade de la confrontation militaire en Éthiopie et a encouragé les partis à dialoguer pour trouver une solution pacifique dans l'intérêt du pays, proposant l'aide de l'organisation pour résoudre la crise. Au Mali, les autorités s'attellent à la création du 3e organe de la transition, le Conseil national, l'organe législatif. La présidence malienne a rendu public mardi 2 décrets fixant les modalités de désignation des membres du Conseil et la répartition des 121 sièges. 22 membres représenteront les forces de défense et de sécurité maliennes, 11 les partis politiques, 8 le mouvement dit du 5 juin qui a mené la contestation contre l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta jusqu'à ce qu'il soit déposé par les militaires. Les autres sièges se répartissent entre d'anciens groupes rebelles armés, les organisations de la société civile, les cultes religieux ou encore les syndicats. 3 personnes ont été tuées et plus d'une trentaine d'autres blessées mardi dans des affrontements violents dans un bastion de l'opposition en Côte d'Ivoire, d'après l'agence Reuters, alors que les tensions s'amplifient dans le pays depuis l'élection présidentielle du 31 octobre. Des manifestations organisées dans la ville de Mbato, dans le sud du pays, par les partisans du principal parti d'opposition, ont mené à des heurts avec des habitants fidèles au président Alassane Ouattara, qui a massivement remporté le scrutin que l'opposition avait boycotté. L'Union africaine et la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont félicité le chef de l'État ivoirien après la validation définitive lundi par le Conseil constitutionnel. L'opposition ivoirienne refuse de reconnaître sa validité. En Tanzanie, au moins 150 membres et dirigeants de l'opposition tanzanienne qui avaient dénoncé des fraudes massives lors d'élections générales de fin octobre ont depuis été arrêtés, a déclaré mardi dans un communiqué la responsable de l'ONU aux droits de l'homme. La plupart de ces hommes politiques arrêtés à partir du 27 octobre, à la veille des élections présidentielles et législatives, ont été depuis libérés, mais 18 d'entre eux seraient encore en détention, précise Michelle Bachelet. L'ancienne présidente du Chili appelle les autorités tanzaniennes à s'assurer que les forces de sécurité agissent dans le respect de l'état de droit et des droits humains. Présidentielle américaine, le président élu Joe Biden a jugé mardi que le refus de Donald Trump de concéder sa défaite était source d'embarras, tout en affirmant que cela ne l'empêcherait pas de prendre sa place à la Maison-Blanche en janvier. Joe Biden a dit lors d'une conférence de presse ne pas se soucier des résistances de M. Trump et a annoncé s'être entretenu avec plusieurs futurs homologues. Il a promis de restaurer le leadership américain et de réaffirmer l'attachement des États-Unis au multilatéralisme et à leurs alliés. Le chef de la diplomatie américaine, lui, Mike Pompeo, a refusé de reconnaître la défaite du président Donald Trump. « Nous verrons ce que les gens ont décidé quand toutes les voix auront été comptées », a-t-il expliqué mardi sur la chaîne Fox News. Et puis, les républicains ont conservé un siège au Sénat américain avec la réélection mardi de Tom Tillis en Caroline du Nord, diminuant les espoirs pour les démocrates de gagner la majorité à la Chambre haute du Congrès américain. Les républicains comptent désormais 49 sièges contre 48 aux démocrates dans cette chambre qui en compte 100. 3 sièges sont encore à pourvoir, l'un en Alaska, dans l'Alaska où le sénateur sortant est en tête selon des résultats encore provisoires et 2 dans l'État conservateur de Géorgie où aura lieu une double élection le 5 janvier. Jean-Roger Bion à ce micro, restez en notre compagnie sur VOA Afrique dans un instant, la suite du journal. La suite de nos informations ce mercredi 11 novembre, l'Union africaine et la CEDEAO ont félicité le président ivoirien Alassane Ouattara pour sa réélection à un troisième mandat, validé par le Conseil constitutionnel lundi, après la présidentielle du 31 octobre, boycottée par l'opposition. Nathalie Barge.
Dans un communiqué, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, félicite le président Alassane Ouattara pour sa réélection et exhorte tous les acteurs politiques à privilégier le dialogue pour préserver la cohésion sociale et la paix, après des violences ayant fait une dizaine de morts lundi. La CEDEAO a également adressé ses félicitations à M. Ouattara en l'exhortant de tout mettre en œuvre en faveur du rassemblement des Ivoiriens qui doivent résoudre leurs différends par les voies du droit. La présidence ivoirienne a aussi reçu des messages du Maroc, du Sénégal, du Togo et du Ghana. Plusieurs opposants ont été emprisonnés ou bloqués chez eux par les forces de l'ordre après avoir annoncé la création d'un régime de transition. Alassane Ouattara a appelé lundi au dialogue l'ex-président Henri Konan Bédié, leader de l'opposition qui refuse de reconnaître la validité du scrutin. Selon le HCR, plus de 8000 personnes ont fui la Côte d'Ivoire vers les pays voisins, principalement le Libéria, en raison des troubles liés à l'élection qui ont fait une cinquantaine de morts depuis l'annonce début août de la candidature d'Alassane Ouattara à un troisième mandat.
Au Mali, le colonel Assimi Goïta aura la haute main sur la composition du futur organe législatif de la transition, censé ramener les civils au pouvoir selon des décrets rendus publics hier. Le point avec Bagassi Koura.
La présidence malienne a rendu public hier deux décrets fixant les modalités de désignation des membres du Conseil national, l'organe législatif et la répartition des 121 sièges. 22 membres viendront des forces de défense et de sécurité, 11 des partis politiques, 8 du mouvement dit du 5 juin. Les autres sièges seront répartis entre d'anciens groupes rebelles, la société civile, les cultes religieux ou les syndicats. D'après l'un des décrets, le vice-président, le colonel Assimi Goïta, reçoit la liste des candidatures et, après examen des dossiers, arrête la liste des membres de ce conseil. La liste définitive sera l'objet d'un autre décret du président de la transition, Bandao. Les candidatures doivent être soumises dans les 48 heures. Les colonels maliens se sont engagés à rendre le pouvoir à des civils élus au bout de 18 mois.
Saeb Erekat, l'une des personnalités politiques palestiniennes les plus connues à l'étranger, est décédé hier à l'âge de 65 ans après avoir contracté le coronavirus. Michel Joseph.
Le secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine est décédé à l'hôpital Hadassah de Jérusalem où il avait été admis le 18 octobre. Il avait déjà des problèmes pulmonaires avant d'avoir le Covid-19. Sa dépouille a été transférée vers un hôpital de Ramallah en Cisjordanie occupée. Saeb Erekat sera enterré aujourd'hui à Jéricho, dans la vallée du Jourdain où il habitait. Le président palestinien Mahmoud Abbas, 85 ans, a décrété un deuil national de 3 jours. Saeb Erekat, passé pour l'un de ses successeurs potentiels. Négociateur palestinien, il a participé à de nombreux pourparlers de paix avec Israël. Des discussions qui sont aujourd'hui dans l'impasse. Docteur Saeb, comme il était surnommé, avait récemment critiqué la normalisation des relations entre Israël et certains pays arabes. Sur Twitter, le département d'État américain a présenté ses condoléances en disant « Nos pensées et prières sont avec sa famille en ces temps difficiles ».
À présent, la minute écho avec John Lydon.
L'opérateur français Orange a annoncé le lancement commercial du premier réseau de fibres optiques panafricain, baptisé Djoliba. Ce réseau unifié de plus de 10 000 km de fibres optiques terrestres va relier 8 pays d'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Mali, le Nigeria et le Sénégal. Avec Djoliba, les populations locales vont pouvoir accéder encore plus facilement à des services de santé ou d'éducation, a souligné le directeur général Afrique et Moyen-Orient d'Orange, Alioune Diaye, qui a chiffré ce projet à quelques centaines de millions d'euros. L'État de Côte d'Ivoire, par le biais de son trésor public, a levé lundi 33 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine. Selon Financial Afrique, l'objectif visé à travers cette levée de fonds est d'assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'État. Le remboursement des bons émis se fera le premier jour ouvrable, suivant la date d'échéance fixée au 7 décembre 2020. Annoncée en 2019, la nouvelle Société nationale de réassurance du Cameroun, dénommée Cameroun Re, va bientôt démarrer ses activités avec un capital de 15 milliards de francs CFA. Ce projet est en phase terminale et a atteint l'étape critique de la constitution juridique.
Yacouba Ouédraogo nous rejoint maintenant pour la page des sports.
Bonjour à tous. La fenêtre internationale FIFA s'ouvre aujourd'hui sur le continent avec les matchs de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2021. Derrière le Cameroun, pays hôte de la prochaine CAN, il n'y a plus qu'une place à prendre et le Cap-Vert et le Rwanda lancent les hostilités de leur groupe à Praia. Les deux comptent deux points chacun. À suivre aussi Mauritanie-Burundi, un duel entre deux nations qui ont participé pour la première fois à la CAN en 2019. Pour l'heure, les Mourabitoun sont bien engagés avec 4 points, tandis que les Hirondelles comptent 0 point. Autre match, Guinée-Tchad, Kenya-Comor, Sénégal-Guinée-Bissau et Libye-Guinée-Équatoriale. En Europe, cette fenêtre internationale s'ouvre avec des matchs amicaux alléchants. Ce soir, en guise d'échauffement avant la dernière ligne droite de la phase de poule de la Ligue des Nations, programmée de samedi à mercredi. En amont de son rendez-vous décisif samedi au Portugal, pour une finale de son groupe, la France compte profiter des matchs à sa portée contre la Finlande ce soir à Saint-Denis pour se roder. Le choc de la soirée oppose les Pays-Bas de Frank de Bauer à l'Espagne de Luis Enrique, un duel aux accents catalans puisque les deux sélectionneurs ont joué ensemble pas moins de 122 matchs sous le maillot du FC Barcelone. Avant ces deux rencontres, la Croatie se déplace en Turquie. L'Allemagne reçoit la République tchèque. Au même moment, l'Italie cherchera à gagner en constance face à l'Estonie avant d'affronter la Pologne, leader de son groupe de Ligue des Nations, samedi. Enfin, la Belgique reçoit la Suisse. Ici aux États-Unis, la saison NBA 2020-2021 débutera le 22 décembre, a confirmé la Ligue nord-américaine de basketball. Après être parvenue à un accord avec le syndicat des joueurs, chaque équipe disputera 72 matchs de saison régulière. L'ouverture du marché des transferts a quant à lui été fixée au 20 novembre. Sur le plan financier, la NBA a estimé une possible perte de revenus à hauteur de 40% due à l'absence de billetterie. Les matchs devant jusqu'à nouvel ordre se jouer à huis clos. Conséquence, les deux parties sont tombées d'accord sur un principe de retenue sur salaire des joueurs à hauteur de 10% pour combler les pertes sur plusieurs saisons.
Vous êtes croyant, animiste ou athée? VOA Afrique vous accorde une tribune dans le dialogue des religions pour parler de la religion, de la vie et de la société. Vous ne penserez jamais tous de la même façon, vous ne verrez qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. Vivre, c'est aussi un privilège, un cadeau à protéger. Retrouvez donc Eric Manirakiza tous les mercredis et dimanches à partir de 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com. Sans oublier la page Facebook, laissez-nous vos numéros et partagez vos commentaires ou témoignages. Mais n'oubliez pas, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu meilleur que vous l'avez trouvé. Bienvenue au Dialogue des Religions.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Aujourd'hui sur VOA Afrique, en votre compagnie Jean-Roger Pion. Maintenant, les dossiers du jour. Les États-Unis et le Nigeria ont tenu mardi une conférence virtuelle avec d'autres membres de la coalition mondiale contre le groupe État islamique. L'objectif de cette rencontre était de réaffirmer l'engagement de Washington à contrer la menace de Daesh et de ses branches dans le monde entier, en particulier en Afrique de l'Ouest. Bagassi Koura a fait le point avec l'ambassadeur Nathan Searles, l'envoyé spécial des États-Unis auprès de la coalition mondiale contre Daesh.
En plus du Nigeria et des États-Unis, cette rencontre virtuelle regroupait d'autres membres de la coalition forte de 82 pays membres contre le groupe État islamique, aussi connu sous le nom de Daesh. L'ambassadeur Nathan Searles, l'envoyé spécial des États-Unis, explique que la coalition a fait un travail extraordinaire en Syrie et en Irak, où elle a détruit complètement le soi-disant califat du groupe État islamique.
Après avoir perdu son soi-disant califat, l'organisation djihadiste a cherché à promouvoir et à encourager la propagation de la violence, son idéologie à travers ses branches régionales, ses affiliés et en Afrique de l'Ouest. Et nous voulons donc travailler avec les pays d'Afrique de l'Ouest pour les aider à renforcer leurs capacités pour faire face à cette menace croissante.
Cette réunion virtuelle a été l'occasion de revoir la stratégie pour contrer les groupes terroristes en Afrique de l'Ouest et notamment dans la zone du Sahel.
J'ai annoncé lors de la réunion que les États-Unis, après avoir dépensé des dizaines de millions de dollars en aide à la sécurité contre le terrorisme depuis 2017 en Afrique de l'Ouest et dans la région du Sahel, nous sommes maintenant prêts à engager 30 millions de dollars supplémentaires au cours de l'année prochaine pour soutenir les capacités de lutte contre le terrorisme, pour soutenir le secteur civil de nos partenaires en première ligne.
Face à la situation de famine et aux millions de déplacés dans le Sahel, l'ambassadeur Searles a rappelé que les États-Unis restent l'un des donateurs les plus généreux en matière d'assistance humanitaire à travers le monde.
Les États-Unis ont été et restent le donateur le plus généreux du monde pour les problèmes et causes humanitaires. C'est vrai en Afrique. C'est vrai en Afrique de l'Ouest. Je peux vous dire que les États-Unis considèrent notre rôle de leader humanitaire comme un rôle important et nous le prenons très au sérieux.
Pour Washington, cette rencontre de mardi est une étape importante de franchie dans la mobilisation contre Daesh, notamment en Afrique de l'Ouest.
L'ambassadeur Nathan Searles, l'envoyé spécial des Nations Unies auprès de la coalition mondiale contre Daesh. Au Sénégal, l'espace politique a été complètement bouleversé par le départ du principal opposant, Idrissa Seck, vers la majorité présidentielle. S'en sont suivies d'autres défections au sein de l'opposition qui font dire à certains observateurs qu'une nouvelle configuration politique est pratiquement inévitable dans l'espace politique sénégalais. Même pour d'autres, rien ne devrait vraiment changer malgré les remous. Notre correspondant à Dakar, Seydina Bagay, nous en dit plus.
Farouche opposant du président Macky Sall, Idrissa Seck était perçu par beaucoup d'observateurs comme le leader naturel de l'opposition grâce à sa deuxième place lors de la dernière présidentielle. Pourtant, le juriste et analyste politique Rosner Ludovic Ali Soutin estime que son arrivée dans la mouvance présidentielle ne devrait pas réellement surprendre les citoyens, encore moins bouleverser l'opposition, puisqu'il n'est pas à son coup d'essai.
Il avait rejoint le président Ablaye Wade au moment où il était peut-être l'homme politique le plus populaire au Sénégal. On lui a pardonné ça. Parce qu'il a été deuxième malgré tout. Bon, maintenant, il revient faire encore une volte-face. Je crois que cette fois, lui-même, il sait qu'on ne lui pardonnera pas ça. Peut-être qu'il en a fini avec la politique. Il veut juste préparer sa retraite en ayant quelques ressources au Conseil économique social, en apportant quelques financements à son parti, et puis c'est fini.
Pour le journaliste et analyste politique Serigne Saliou Gueye, cette nouvelle configuration de l'espace politique montre que le président Macky Sall est impitoyable face à ses adversaires. Pour lui, Le président Sall est parvenu à mettre dans sa poche les partis classiques tout en utilisant la machine judiciaire pour broyer ceux qui voulaient lui tenir tête.
C'est une bête politique. Et vous savez, depuis son discours de Kaffrine, quand il disait « je vais réduire l'opposition » à sa plus simple expression, et il est en train de le faire. Il est parvenu à mettre dans sa poche les deux principaux partis sociaux-démocrates de ce pays-là, l'AFP et le PS. Qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il a déstabilisé complètement le PDS en utilisant la machine judiciaire. Karim Wade a été mis en prison. L'autre membre dissident, bien sûr, du PSK, Khalifa Sall aussi, il a utilisé la machine judiciaire pour le neutraliser complètement.
Alors, ce nouveau coup politique du président Macky Sall va-t-il affaiblir l'opposition? La réponse est non pour l'analyste politique Rosner Ludovic Ali Soutin.
Quelqu'un qui ne s'opposait pas vraiment, s'il quitte l'opposition pour aller dans le gouvernement, ça ne change absolument rien. Et tout le monde savait que l'opposition aussi au Sénégal aujourd'hui, si ce n'est pas Guy Marie Chagnan, c'est son coup. Le reste ne disent rien. Même le PDS ne réagit plus. Maintenant, ils ont peut-être les raisons. Mais il n'y a que Sonko et une partie de la société civile qu'on entend. Donc, il dit ne s'opposez pas. Et vous avez vu qu'il était silencieux depuis qu'il a perdu les élections. Donc, s'il va au pouvoir, ça change quoi? Absolument rien.
Le journaliste et analyste politique Serigne Saliou Gueye pense, quant à lui, qu'avec le départ d'Idrissa Seck, l'opposition est amputée d'une force réelle et il y aura forcément une nouvelle configuration autour d'Ousmane Sonko.
Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, le champ de l'opposition va être dirigé, qu'on le veuille ou non, par Ousmane Sonko. Maintenant, quelles sont aussi les autres forces qui sont en présence dans cette opposition-là? Il y a Taxawu Sénégal de Khalifa Sall. Il y a l'équation du PDS. Le PDS, c'est la première force de l'opposition parlementaire. Mais le mal du PDS, c'est qu'aujourd'hui, ils sont en but à un problème de leadership. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le PDS aussi a du mal à s'affirmer sur le plan politique.
L'opposition sénégalaise est de plus en plus fragmentée et sa principale figure, Ousmane Sonko, a quitté la coalition qui l'a porté à la troisième place de la présidentielle suite à une audience secrète entre un de ses principaux alliés, le président Macky Sall. Ce dernier continue ainsi à déstabiliser l'opposition avec des coups d'éclat, comme l'alliance avec Idrissa Seck, et des coups bas, comme l'audience avec Boubacar Camara, qui était jusque-là une figure phare de la coalition Jotna de Ousmane Sonko. Sirina Aba Gueye à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Les récentes campagnes de vaccination des enfants sont au centre d'une controverse au Cameroun. Dans un contexte marqué par le COVID-19, plusieurs parents, certains établissements scolaires et centres sanitaires boudent l'administration des vaccins aux enfants. L'opinion publique, l'Église catholique, l'Ordre national des médecins et le ministère de la Santé publique ne parlent pas le même langage au sujet des campagnes de vaccination contre le cancer du col de l'utérus et de la poliomyélite. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jelentap.
J'ai dit que les enfants qui sont dans cette école seront vaccinés. Votre enfant ne sera pas vacciné, vous le gardez chez vous.
La scène s'est déroulée le mois dernier dans l'enceinte d'une école primaire à Douala. Une violente altercation a opposé un agent vaccinateur à une mère opposée à l'administration du vaccin oral contre la poliomyélite à son enfant.
C'est l'école de l'État.
Une nouvelle campagne de vaccination contre la poliovirus circulant de type 2 est en cours. Elle rencontre également une résistance sur le terrain. La campagne qui s'achève le 22 novembre prochain, concerne les enfants âgés de 0 à 5 ans. Professeur Tétanier Ekoué, président de la Commission nationale de certification de l'éradication de la poliomyélite.
Il y a des églises qui s'acharnent à convaincre leurs fidèles de ne pas accepter la vaccination. C'est un phénomène que nous déplorons. Il est très probablement lié à l'action pernicieuse de ce qu'on appelle les groupes anti-vaccination. Extrêmement bien structurés, extrêmement bien financés.
Dans les réseaux sociaux, de nombreux parents camerounais sont allergiques à certaines campagnes de vaccination des enfants. Celles en faveur de près de 400 000 jeunes filles âgées de 9 à 14 ans pour les prévenir du cancer du col de l'utérus et les infections génitales liées au papillomavirus humain fait encore des vagues.
Il y a assez de rumeurs. On dit qu'il y aura des conséquences après, comme la stérilité. Ça va freiner beaucoup de choses et du coup, c'est pas facile d'accepter.
Je ne sais pas ce que ça signifie. Je ne sais pas quelle portée ça aura sur l'organisme humain.
La position du clergé catholique a davantage contribué à renforcer cette méfiance. En effet, les diocèses d'Obala, dans le nord de Yaoundé, et de Nkonsamba, dans le sud de Douala, ont interdit jusqu'en nouvel ordre la vaccination des jeunes filles qui fréquentent les chapelles, établissements scolaires et centres de santé de leur territoire ecclésiastique. L'Ordre national des médecins du Cameroun s'est dit étonné par une décision, je cite, manifestement inspirée d'informations glanées ça et là dans les réseaux sociaux ou alors de notions scientifiques mal assimilées, fin de citation. Pour tenter de dissiper les malentendus, les archevêques et évêques de l'Église catholique réunis à Yaoundé du 3 au 6 novembre 2020 ont été imprégnés sur les enjeux du vaccin contre le cancer du col de l'utérus au Cameroun par une délégation venue du ministère de la Santé publique. Une polémique qui a fait réagir le ministre de la Santé publique, Malachi Manaouda.
Nous sommes en train simplement d'implémenter un plan d'immunisation de nos compatriotes pour qu'on n'ait pas à subir les effets.
D'après le programme élargi de vaccination, seuls 76% des enfants âgés de 0 à 5 ans ont pu être vaccinés contre la polio au cours de la dernière campagne de vaccination. Ce pourcentage est encore insuffisant. Il faut absolument atteindre le cap de 90%, souligne les experts de santé qui préconisent en outre l'intensification de la sensibilisation des populations pour élaguer les appréhensions sur les vaccins au Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Jountap, VOA Afrique.
Amadou Toumani Touré, qui a dirigé le Mali en 1991-1992 et de 2002 à 2012, est décédé à 72 ans dans la nuit de lundi à mardi en Turquie. Il reste aux yeux de nombreux Maliens le militaire qui a mis le pays sur la voie de la démocratie en 1992, après plus de 20 ans de dictature, au point de gagner le surnom de soldat de la démocratie. Mais il fut aussi à la fin de sa présidence le dirigeant impuissant à contenir les rébellions du nord du pays, les précisions de Kassim Traoré à Bamako.
C'est 6 jours après avoir soufflé sur sa 72e bougie que le président Atété est décédé le mardi 10 novembre 2020 à Istanbul. Et pour les Maliens, c'est une perte cruelle. Amadou Doumbia, juriste.
Par rapport à la mort du président Amadou Toumani Touré, on ne peut dire que inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. C'est vraiment une grande tristesse, un coup très dur pour nous. C'est vrai qu'il a beaucoup fait pour le Mali, mais on a encore besoin de lui. Mais bon, quand Dieu nous l'arrache.
Voilà un monsieur qui s'est beaucoup donné pour ce peuple malien. Il a beaucoup fait, il a beaucoup travaillé. Parmi tous ces présidents qui ont passé au Mali, je pense qu'il est le meilleur. Il est le meilleur, il avait beaucoup d'idées, il avait beaucoup de projets à faire. Il a réalisé pas mal de choses à Bamako, au Mali, l'ensemble du territoire du Mali. Il a réalisé pas mal de travaux. Donc voilà, c'est juste un regret. Mais quand il est rappelé à Dieu, c'est tout à fait normal. On ne peut que lui faire des bénédictions.
Acteur majeur de la démocratie malienne, ATT a contribué à façonner le visage du Mali moderne avec des projets de routes, des ponts, des centres de santé, d'accès aux logements sociaux et de l'eau potable, sans oublier l'électricité. Issa Kaoudjim, coordinateur de la CEMAS.
Certes, Nil n'est parfait. Amadou, c'est un patriote. Il a beaucoup donné. Il y a eu aussi, certes, des choses qui n'ont pas été parfaites. Il a marqué son temps. Il est rentré dans l'histoire du Mali. Les Maliens ont retenu beaucoup de choses de lui, notamment des grands travaux. Mais aussi son entre-gens, sa facilité à communiquer avec le peuple, humble dans ses relations humaines. Donc, nous sommes, comme tout Malien, avec tristesse, avec douleur. Nous avons appris le décès du président Amadou Toumani Touré.
Pour bon nombre de Bamakois, le président Atété a été le bâtisseur du Mali, car plusieurs infrastructures socio-sanitaires du pays ont été construites pendant son mandat. Moussa Téminé, journaliste.
Le président Amadou Toumani Touré, je retiens de l'homme un homme humble, patriote qui aime vraiment son pays. Et surtout, je retiens de l'homme, surtout un patriote qui a vraiment beaucoup contribuer pour le développement et surtout dans la recherche de la paix. Surtout, je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, les réalisations comme l'hôpital Soumino de l'eau de Sébaré et l'hôpital régional de Ségasso, les infrastructures routières. Donc, toutes ces réalisations que l'homme a fait.
Le Mali pleure à Tété en lui rendant des hommages. Et chacun y va de sa manière. Magasuba Awasila, proche de la famille d'Atété.
Il aimait le Mali. Et cet amour, il l'a aussi donné à ses enfants, ses petits-enfants. On peut dire aujourd'hui, lui, il a appris à certaines personnes aussi à aimer le Mali. Dont moi, qui ne suis pas malienne, mais à qui, je peux dire, il m'a transmis l'amour de ce pays. Parce que c'est en côtoyant Atété que j'ai pu m'introduire dans la politique malienne. Et aujourd'hui, moi je perds un papa, mes enfants perdent un grand-père. On ne peut qu'en s'en remettre à Dieu, parce que ça fait très mal.
Au nom du peuple malien et en son nom propre, le président de la transition Bandaou a présenté ses condoléances les plus sincères à la veuve du défunt, Madame Touré Lobo Traoré et à ses enfants. Le gouvernement s'active pour le rapatriement du corps avant l'organisation des obsèques nationales du président ATT. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition matinale. Jean-Roger Bion à ce micro. Mise en onde, Michel Joseph. Nos informations sont disponibles 24 heures sur 24 sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram. Bonne journée à tous.